petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel.
Joué dont tu as rêvé, petit garçon, il est l'heure d'aller se coucher.
On n'est pas des cadeaux, l'émission Transpédéguine est féministe.
N'est pas hétérosexuel. On le devient pas toujours.
Le genre, ça se construit, le corps aussi.
On n'est pas des cadeaux.
Une émission transpédéguine et féministe.
Rêve de princesse, vie de cauchemar.
On n'est pas des cadeaux. Une émission transpédéguine et féministe.
Sur Radio Canu.
La plus des radios.
La plus rebelle des radios.
Votre hétérosexisme n'a fait que notre rage. Votre haine n'a fait qu'embellir nos amours. Aujourd'hui plus que jamais, nous ne voulons ni de votre sexualité bénitier, ni de votre normalité, ni de votre ennui, ni de votre aliénation, ni de votre intégration dans ce système patriarcal, capitaliste, raciste, nourri de la domination des unes sur les autres.
Une émission trans PD Gwyn.
Enfin, surtout trans et Gwyn.
Et bonjour et bienvenue sur l'antenne de Radio Canu. Donc notre jingle, le début de ce jingle tombe particulièrement bien chaque mois de décembre, parce que ce qu'il faut vous dire, c'est que on est sur Lyon en pleine période de la fête des Lumières, et autant dire que pour venir à la radio, il faut compter quelques minutes de plus, que les rues sont remplies de personnes, que c'est le début des marchés de Noël, tous ces trucs commerciaux absolument très chiant. Et donc là, on est bien content d'être à la radio et pas dehors.
Et oui, et pour cette émission aujourd'hui, on va partir en quête de notre histoire, de nos histoires, et on va écouter Les Voix d'Elle, une association de lesbiennes de Grenoble qui nous raconte un peu comment s'est montée leur association et puis leur parcours militant. Mais tout de suite, les infos.
Les infos.
Qu'on aime une fille ou un gars, cela ne vous regarde pas.
Eh bien, je vais commencer en disant, je pense que quand même beaucoup de personnes sont au courant, mais dans la nuit d'hier, Nelson Mandela est mort. Voilà. Sinon, je voulais parler de la pénalisation des clients. La loi a été adoptée, donc c'est les députés qui l'ont adoptée ce mercredi 4 décembre. Et la proposition de loi visant à sanctionner les clients des travailleurs du sexe, elle a été adoptée à majorité, 268 voix contre 138 avec 79 abstentions. Et heureusement, avant d'entrer en vigueur, la loi devra cependant franchir l'étape du Sénat, qui devrait l'examiner avant l'été. Et donc, la conséquence dans le texte, c'est que les clients pourront avoir une contravention de 1 500 €. Donc, rappelons encore une fois, même si on l'a beaucoup dit sur cette antenne, que qu'est-ce que c'est la conséquence de la pénalisation des clients? C'est la pénalisation du coup des travailleuses du sexe, puisque ça précarise les prostituées et les expose aussi à des risques sanitaires accrus, et ça repousse d'autant plus les travailleuses du sexe dans des formes de clandestinité. Et sinon, dans le texte, et ça c'est une bonne chose, donc ce texte-là va abroger le délit de racolage passif institué par Sarkozy en 2003. Et ce texte apparemment prévoit des mesures d'accompagnement social et professionnel pour celles qui veulent quitter la prostitution. Donc ça, c'était réclamé par beaucoup de féministes à la sauce du féminisme, on va dire. Et donc c'est une aide financière temporaire de 336 euros mensuels. Il faut dire, c'est moins que le RSA. Je ne sais pas comment des meufs... bref, mais bon, 336 euros, ça n'aide pas forcément à vivre pour le mois quand on habite en ville, mais bon. Et il prévoit aussi la possibilité pour les étrangères engagées donc dans ce qu'ils appellent parcours de sortie, d'obtenir un titre de séjour de 6 mois. Et donc, mercredi soir, il y avait environ 200 travailleuses du sexe qui ont manifesté leur colère près de l'Assemblée sur l'esplanade des Invalides à Paris, donc contre la loi que les députés venaient de passer dans l'après-midi. Et je rappelle aussi que quand même, ces dernières semaines et ces derniers mois, beaucoup d'associations avaient pris parti contre le projet de pénalisation des clients.
Nos corps et nos parcours nous appartiennent, c'est le titre du tract qui a été diffusé vendredi 29 novembre à une soirée débat organisée par le planning familial à Grenoble autour de transidentité, vers quelle forme d'accompagnement social. Alors ce tract, c'était un peu pour dénoncer le fait qu'à la tribune, il y ait des personnes, enfin une majorité de personnes non trans. Et du coup, je vais vous lire une partie de ce tract qui est écrit par des transféministes en colère. Nous trouvons important d'aborder des problématiques trans de manière publique et de se poser les questions d'un meilleur accompagnement et d'une acceptation des personnes trans dans leur quotidien, parce que ce sujet est quasi inexistant, voire jamais abordé. Rappelons qu'en France, la transphobie n'est toujours pas considérée comme une discrimination. Mais il nous semble évident et non négociable que les personnes trans ne doivent pas être dépossédées de ces questions et de leurs solutions par des pseudo-spécialistes des trans. Il apparaît une fois encore que certaines des personnes invitées n'ont aucune légitimité à répondre à ces questions. Pourquoi inviter un chirurgien de l'équipe officielle de Lyon pour parler d'accompagnement social ? Nous, trans, vivons de la part du corps médical des agressions diverses et variées. Humiliation, chantage, psychiatrisation, viol, etc. Il nous semble dès lors plus que malvenu que des personnes de ce même corps médical, d'une part, se pensent et se définissent en spécialistes de nos identités, d'autre part, puissent intervenir publiquement et en toute légitimité dans des débats. Les équipes officielles, autoproclamées, dont fait partie le docteur Morel Journel, appliquent des protocoles tout à fait arbitraires qui mettent en évidence leurs pensées réactionnaires. Il faut correspondre à leur définition psychiatrique de ce qu'est une personne trans pour pouvoir accéder au parcours officiel. Définition qui n'existe que par eux, pour eux, pour préserver leur monde hétéronormé, binaire et patriarcal. Cela fait bien longtemps que nous ne croyons plus à ces schémas qu'ils nous imposent. Faire intervenir des personnes cis, c'est-à-dire non trans, pour parler des problématiques trans, est une manière de nous rabaisser, de continuer le travail de longue haleine des psychiatres et des médecins qui, par leur mainmise sur nos parcours et nos corps, nous ont poussés au silence et continuent à nous l'imposer. En effet, qui pourrait écouter et prendre en considération des personnes psychiatrisées ? Nous seuls pouvons nous définir comme spécialistes de ce que nous vivons, de nos identités et de nos parcours. Psychiatres, sociologues, nous ne voulons pas être étudiés hors de nos vies. Enfin, le planning familial, issu des luttes féministes des années 70, se définissant comme un mouvement féministe d'éducation populaire qui organise ce débat, contribue à déposséder les personnes trans de tout ce qui les concerne. Nos corps et nos parcours nous appartiennent. En tant qu'association féministe, nous pensons que le planning familial est à même de comprendre notre colère. Imaginez un débat sur le féminisme avec une majorité d'hommes à la tribune. Petite comparaison qui montre pourquoi il nous semble nécessaire qu'une majorité de personnes trans soient invitées comme intervenantes dans chaque débat ayant pour thème les transidentités.
Et maintenant, pour finir, quelques petites brèves. Donc, j'ai la preuve maintenant que l'hétérosexualité incite à la pédophilie. Non, c'est un peu tordu de dire ça comme ça, mais pourquoi je dis ça ? C'est que Michel Loosevelt, qui est maire UMP de Lompré dans le Nord depuis 2001, qui s'était opposé farouchement l'année dernière au mariage pour tous, a été interpellé mardi 3 décembre à son domicile par les gendarmes. Et pourquoi ? Parce que les enquêteurs lui reprochent la consultation régulière de sites pornographiques présentant des images de mineurs. Et ben voilà, ce petit coco-là, il est plutôt mal placé pour faire des leçons de morale.
Alors, après les stars, c'est aux psys de faire leur coming out. Le nouveau président de l'Association mondiale psychiatrique, Dinesh Bougra, a fait son coming out dans les colonnes du quotidien britannique The Guardian. Alors, il dit « Être gay est une part importante de ce que je suis, mais elle est privée ». C'est ce qu'il affirme dans l'interview au Guardian, avant d'évoquer la nécessité pour l'association qu'il préside de s'engager sur ce dossier. Il estime aussi « Il n'y a aucun doute que la psychiatrie ne s'est pas couverte de gloire. Je crois qu'il est de notre devoir de nous excuser dans tous les domaines ». C'est ce qu'il a affirmé en évoquant la responsabilité de la psychiatrie concernant la stigmatisation des gays et des lesbiennes, ainsi que des femmes. Et ben, on a fini cette page d'information et puis on va s'écouter une petite chanson, c'est Big Up des Van Van.
Est évidemment une menace pour l'humanité, une menace pour l'humanité.
Reportage.
Alors, notre histoire de transpédéguine, c'est l'histoire de minorités volontairement oubliées, de l'histoire avec un grand H. C'est l'histoire de la répression d'État, de PD et de Gwyn emprisonnés pour homosexualité jusqu'en 1981, de groupes politiques stigmatisés et de toute cette homophobie rampante. C'est des histoires de lutte. Alors on n'est pas chez Sainte-Tapiole, on ne naît pas dans une famille homo, et quand bien même on est accepté ou plutôt toléré, l'histoire de l'homosexualité ne nous est pas transmise. Pour connaître notre histoire, il nous faut la chercher au gré des rencontres et des obstacles. Difficile de trouver des traces d'organisation politique de PD de Gwyn avant les années 70. Si elles ont existé, rien ou presque n'en est resté. Pour ce qui est des années 70, époque de nombreuses luttes de libération, on profite d'une projection de documentaires, d'heures passées sur le net, où on trouve par miracle un numéro scanné de brochures du Phare, des Gwyn rouges et autres trouvailles. Comme on est dans des réseaux politiques, on croise, on rencontre des militantes plus âgées, de celles qui militent depuis plus de 10, 15, 20 ans, celles qui peuvent nous transmettre, de par leur parcours et leur rencontre, un morceau de notre histoire. Nous sommes allés à la rencontre de Transpédéguines pour qu'ils nous racontent leur parcours. Des parcours divers, variés, qui mêlent des luttes contre cette société hétéropatriarcale, luttes qui sont également contre les systèmes de domination et de pouvoir.
J'existais avant vous, c'est juste parce que j'existais.
C'est pas pour des gens, mais c'est ça.
C'est... Non, c'est pour On n'est pas des cadeaux, c'est une
union.
Transpédéguine féministe à Lyon.
Radio Canu.
Ouais.
Il s'appelle Canu. Je suis une bonne.
Ouais, ouais.
Je suis pas Canu.
T'as pas l'accent.
En quête de notre histoire.
Des histoires de pédales.
De gouinasses.
De folles et de tafioles.
De travelots. De trans.
De sales féministes.
De mal baisés.
D'enculés.
Entretien avec Isabelle, Nicole et Sylvie, militantes aux Voix d'Elle, association de lesbiennes de Grenoble.
Alors moi je suis Sylvie, j'habite Saint-Martin-d'Hères et je suis aux Voix d'Elle depuis 1999.
Et moi, c'est Isabelle, j'habite à Saint-Martin-d'Hères également. Je suis au Voix d'Elle depuis 1997.
Alors, je suis Nicole et j'habite à Grenoble. Et puis, ben, je ne sais pas depuis combien de temps je suis au Voix d'Elle. Hein. Depuis que. 90. Non, 82. 82, 83, un truc comme ça.
À part que les Voix d'Elle n'existaient pas. Commencé en 92.
92, bah, il devait y avoir autre chose, les ancêtres des Voix d'Elle.
Voilà. Alors les Voix d'Elle officiellement existent depuis 1992 en tant qu'association. Mais il y a eu des choses avant, des prémices avant que, dont Nicole va vous parler.
Bah, moi je suis arrivée à Grenoble, j'étais dans la montagne et quand je suis descendue à la Maison des Femmes de Grenoble où il y avait des lesbiennes. À l'époque on ne disait pas encore Gwyn. On disait lesbienne. Donc la Maison des Femmes, je ne suis pas très bonne pour les dates. Hein. Je disais 82. Après, on s'est réunis au planning familial. Et après, on s'est réunis au gymnase Saint-Bruno parce qu'il y avait une copine qui était maître nageuse et qui pouvait nous avoir une salle. Et après, il y en a une de nous qui a dit « Il faut faire une association et il faut avoir un local ». Au début, oui, c'était rigolo, c'était beaucoup tourné sur le sport parce que.
Voilà, ça, on a s'est... ça a changé. Ça a changé. Heureusement, j'étais pas.
Oui, parce que. Bon, déjà, c'est parti que j'avais mis une annonce en disant l'association AIFA, Association Internationale Féministe d'Aïkido, existe, venez nous rejoindre. Parce que je faisais de l'aïkido et qu'effectivement, j'organisais des rencontres internationales. Et là, il y a une amie, enfin une femme qui habitait dans le Vercors et qui était prof de ski de fond, qui a vu international féministe aïkido, du sport, de l'international et du féminisme. Du coup, elle m'a branchée. Et puis, c'est là qu'on a fait le groupe. Et donc, cette maison dans le Vercors, c'était un peu un pôle où elles organisaient des week-ends ou des sorties en montagne. Donc ça a été ça a fait partir le groupe quand même de faire des trucs sympas.
Alors il y a plusieurs types d'activités, il y a des activités politiques, militantes, et puis il y a des activités plus conviviales ou culturelles. Alors dans les activités politiques, ben on essaye de travailler et d'œuvrer à la visibilité des lesbiennes dans la société
et des femmes.
Voilà, et des femmes. On est...
Parce que en fait, de faire des choses en tant que femme. Bon, maintenant, ça paraît peut-être évident, mais à Lyon, en 1980, quand on a fait un café de femmes, eh bien, on a demandé une subvention. Et le fait de faire un café de femmes, de faire un truc sans les hommes, il fallait avoir le culot de le faire et il fallait pas avoir honte. Et voilà, un lieu de femmes, même en 80, c'est d'affirmer qu'on voulait un lieu non mixte, c'était pas facile.
Justement, un des points qui nous rend visibles, c'est notre non-mixité. Parce que si on était dilué dans la mixité, on ne nous verrait pas. Bon, souvent, on ne voit pas les femmes dans la mixité. Et là, c'est souvent pas compris ou pas bien accepté. en fait, encore aujourd'hui. Donc c'est toujours un sujet qui est en discussion. Et puis ensuite, y a des activités plus conviviales, parce que l'idée, c'est de sortir un peu les lesbiennes de leur isolement, les faire descendre de leur montagne quand elles habitent en montagne, par exemple, ou bien de les faire sortir de leur isolement, de leur petit ghetto, là où elles sont confinées par le monde hétérosexuel. Donc, y a des sorties restaurants, des soirées conviviales où on danse, tout ça, voilà. Et puis, la culture, on y tient aussi, parce que très souvent, nous, on fait partie d'une génération où, à l'école, on ne nous a pas trop montré que les femmes avaient été des créatrices, et encore moins les lesbiennes. Moi, j'ai appris très tard que Marguerite Yourcenar, on va dire, était homosexuelle, parce qu'elle ne se revendiquait pas lesbienne. Mais voilà, quand je l'ai appris, ça a été une révélation. Chaque fois que j'apprends, d'ailleurs, qu'une femme qui a créé des choses et que j'aime bien est lesbienne, c'est toujours, ça me fait toujours le même effet.
Et on en trouve plein.
Il y en a plein, en plus. Ouais. Donc, on essaye de promouvoir comme ça ce qui relève de notre culture pour s'affirmer aussi de cette manière dans la société. Donc on fait venir des autrices. D'ailleurs, on a découvert récemment que ce mot autrice était utilisé dans la langue française depuis au moins le Moyen-Âge. Donc il y a bien des mots, on n'est pas obligé de dire auteur, parce qu'auteur, on n'entend pas bien le de la fin. Autrice, on voit tout de suite qu'il s'agit de femmes. Donc on fait venir des autrices, des historiennes, voilà. Souvent, elles sont militantes elles-mêmes, donc...
Peut-être préciser qu'on a deux permanences par mois. Enfin, on en avait quatre, mais on a été obligé de limiter parce qu'on n'est plus assez nombreuses, mais il y en a toujours deux par mois. C'est le lundi...
Le deuxième et le quatrième du mois.
De 19h30 à 21h30.
Alors après, on participe quand même à des groupes mixtes, hein, ça nous arrive aussi. Récemment, on a travaillé sur la question des demandeurs et demandeuses d'asile pour homophobie ou lesbophobie.
Le fait qu'il y ait une présidente, une trésorière et tout ça, pour moi, j'y tenais pas. Mais c'est vrai que pour créer une association, il le fallait. Et en fait, je pense que au fur et à mesure des années, ça représente un certain engagement, le fait de dire je suis présidente ou je suis secrétaire. Mais surtout maintenant, on a un collège. Mais même avant, la personne qui s'était dite présidente, c'était uniquement un nom. On a souvent dit ce sont des noms qu'on met parce qu'on est obligé de mettre des noms. Mais les initiatives sont à prendre par tout le monde. Il s'est trouvé, selon les années, que les personnes qui avaient leur nom dans les statuts étaient aussi les plus actives, mais ce n'était pas une règle. Alors moi, le local, j'y croyais pas trop, mais dès qu'il y a des initiatives qui se prennent, je trouve que c'est bien, dans la mesure où elles ne vont pas à l'encontre de certains principes.
Je pense que le caractère un peu officiel d'une association, c'est malheureux, mais ça nous rend légitimes dans certains combats, parce qu'on a un nom sur la place publique. Et, enfin, je pense rien que pour défendre la Malaprise l'autre fois devant les élus, pour les demandeuses d'asile aussi, ça a beaucoup aidé, je pense. On a eu quoi, 5 demandeurs d'asile qui ont eu le statut de réfugié à la CNDA, et dans certains retours de la CNDA, c'était bien mentionné que les lettres des associations avaient beaucoup compté, quoi.
Enfin, moi, je pense qu'on a jamais, fait de concessions aux élus en question contre une reconnaissance. Hein. Le jour où on nous demandera de faire des choses qui, comme dit Nicole, iront contre nos principes, on dira on arrête tout, votre local vous le gardez, on va se réunir chez des copines, comme ça s'est fait avant. Enfin, je veux dire, là c'est vrai que c'est du confort, hein. C'est bien de recevoir des gens dans un centre LGBT, mais moi je pense qu'on doit utiliser les gens qui sont au pouvoir. Moi je fais partie des gens qui les élisent, puisque j'exerce mon droit de vote, donc j'estime qu'ils ont des comptes à me rendre en matière, en espèces sonnantes et trébuchantes, c'est-à-dire que s'il y a de l'argent qui peut aller aux lesbiennes, moi je préfère que mes impôts ils aillent aux lesbiennes plutôt que construire des sous-marins nucléaires.
Je me souviens d'une époque où on a travaillé longuement sur les statuts pour essayer d'exprimer une certaine ouverture dans notre non-mixité, une très très large ouverture envers les femmes. Donc on a marqué, je crois que c'était une association ouverte à toute femme s'interrogeant sur toute forme de sexualité lesbienne. Et le but, c'était aussi qu'il n'y ait aucun obstacle pour des femmes pour venir nous rejoindre, que ce soit un obstacle lié au racisme. Il y a une époque, on a fait des débats là-dessus, sur le racisme et sur la transphobie. C'est des débats qu'il faudrait refaire sans arrêt. Les adhérentes, ça bouge beaucoup. Ou alors, il y a beaucoup de questions qui reviennent tout le temps, quoi. Et notamment au niveau de la précarité, on a fait tout un travail pour obtenir des subventions de manière à ce qu'on puisse faire, pas tout à fait un prix libre, mais une participation active financière sur un mode anonyme pour que les personnes n'aient pas à se justifier. Et pour ça, on avait eu des subventions qu'on n'a plus, mais pour le moment, on arrive encore à fonctionner comme ça. Et notre adhésion aussi est au prorata des revenus. En sachant qu'on vérifie absolument rien.
C'est 2% normalement.
Ouais. 2% d'un revenu mensuel par an.
Spécialement dédicacé aux routières, aux câblières, infirmières, jardinières, pâtissières, tapissières, biscuitières, joaillières, téléphonistes et machinistes, aux fleuristes, aux choristes, aux urbanistes, aux ébénistes, aux pépiniéristes, aux satiristes, aux coloristes, aux courriéristes, aux chimistes, aux hygiénistes, aux trompettistes, aux trapézistes. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. Dédicacé aux géologues, psychologues, sociologues, sinologues, philologues, éthologues, graphologues, archéologues, paléologues, marinières, infirmières, costumière, couturière, façonnière, gantière, lingère, ménagère, guichetière, secrétaire, romancière, aventurière, vas-y, continue la liste. Téléphoniste, machiniste, économiste, violoniste, étalagiste, paysagiste, métallurgiste, aquarelliste, carriériste, archiviste, journaliste et modéliste. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. Opératrice, réalisatrice, productrice, éducatrice, monitrice, compositrice, cantatrice, galérienne, magicienne. Aux historiennes, bohémiennes, grammairiennes, physiciennes, techniciennes, aux gardiennes, électriciennes, mécaniciennes, comédiennes, pharmaciennes, musiciennes, pharmaciennes. À toutes celles saisonnières, séveillères ou journalières, qui pour un travail égal, à celui qui font le mal, la qualification égale, touche-moi, c'est pas normal. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler.
Des annonces dans les gratuits, c'était
38.
Le 38, ouais, quand il y avait le 38, on mettait des annonces, on payait. Et il y a des femmes qui nous ont rejoints avec ça dans la partie rencontre amicale, je crois. Pas dans les trucs rencontres de cul. il y avait une autre partie, rencontre
sans cul.
Et ça nous a amené du monde.
Bah, on a été dans l'annuaire, je crois, dans les pages jaunes.
On y est encore. On est dans les pages jaunes.
Voilà.
Ça, c'est pratique. Ouais.
Et puis, depuis, il y a eu de nouveaux moyens d'information et de communication.
Maintenant, c'est tout par Internet. Toutes celles à qui je demande, c'est toujours Internet.
Facebook, Internet. Voilà, oui, trouve. Et puis, on a eu un site Internet quand même. Un moment, on s'était mis quand même, une nouvelle technologie. Mais ça s'est arrêté là. Notre...
Le Cigale a un site Internet et on est dessus.
Voilà, on est dessus.
Puis on tient des tables de forum deux fois par an, une fois au campus, une fois en pleine ville, mais je ne sais pas s'il y a beaucoup de filles qui sont arrivées par ce biais-là. Si, il y en a qui sont arrivées par des activités qui étaient dans le 38.
Ou le petit bulletin.
Dans le petit bulletin, voilà. Les activités. Je me semblais que ce n'était pas le bon mot.
Parce que quand on fait des réunions publiques avec une intervenante, souvent, on le met dans le petit bulletin. Donc comme ça, les personnes qui le lisent peuvent venir. On a une boîte mail, une adresse mail, donc il y a des femmes qui nous écrivent et qui demandent à nous rencontrer. Et puis, il y avait le numéro de téléphone, de moins en moins. Les permanences, ça fait longtemps que le téléphone n'a plus sonné. Mmh. On nous téléphone presque plus. Mmh.
Voilà. Et les permanences d'accueil, il n'y a personne qui vient se faire accueillir ?
Si, ça arrive quand même. Mmh. C'est un peu rare, mais... Il n'y a pas longtemps, on en a accueilli une là, qui a adhéré d'ailleurs.
Et on a notre journal,
voilà,
Brisebrouf, qui est distribué
par trimestre.
Par trimestre. Et puis, quand il y a une personne qui a entendu parler des voix d'elle ou qu'on lui donne Brisebrouf, pour quel est l'agenda et l'éditorial. Nous avons une éditorialiste. Mais par contre, c'est vrai que ça fait longtemps que c'est toujours les mêmes qui s'occupent du journal.
Ça fait longtemps que c'est toujours les mêmes qui s'occupent de tout.
Ouais, c'est un petit truc qu'il faudrait changer, quoi. Ouais, parce qu'on voit des groupes qui fonctionnent, moi je dirais mieux que nous. Des groupes qui fonctionnent où tout le monde prend tout en charge. Alors, est-ce que c'est notre manière de fonctionner, notre âge ?
En tout cas, quand on ne prend pas en charge, personne ne fait.
Ben oui.
Alors, il y a des choses qu'on ne prend plus en charge, donc qui ne sont pas faites. Mm. Mais voilà.
Il y a aussi que les voix d'elle, elles fonctionnent avec les retraités, les chômeuses, les malades, et que les autres qui travaillent...
On n'a pas cette chose.
Soit elle consacre beaucoup de temps comme Sylvie, mais c'est pas forcément. Enfin, voilà, on a du mal avec ça, quoi. À être nombreuses, à être actives. Et du coup, c'est pas très porteur, même pour celles qui. Enfin, moi, je suis retraitée. J'ai beaucoup de temps, mais ce serait plus porteur si on était plus nombreuses. Je sais pas comment expliquer ça, quoi. Même si je peux faire beaucoup de choses, j'ai pas envie de les faire toute seule, ou j'ai pas envie de me coltiner toutes les tâches, ou j'ai envie de discuter, ou, voilà. Donc, je sais pas, faut mettre tout le monde au chômage.
Bah, c'est vrai que quand il y a peu de monde, on n'est pas très porté, quoi. Et au contraire, quand on voit qu'il y a une activité, tout à coup, il y a une vingtaine de copines qui viennent, etc. Ça galvanise, quoi. Ça donne envie de continuer, etc. Donc ça, c'est sûr que c'est important d'être dans le collectif. Et alors, quant à savoir s'il y a beaucoup de personnes qui s'investissent, il y a quatre piliers, on va dire, à Grenoble. Donc nous trois plus une autre copine. Et puis il y en a d'autres qui ont un investissement plus ponctuel. Mais il y en a qui sont un peu excentrés géographiquement, donc on en a vu revenir justement au moment des combats pour les demandes d'asile. Il y en a qui sont revenus à cette occasion-là. Voilà, donc c'était bien ça. Et puis il y a quand même deux ou trois personnes là qui sont venues récemment et qui ont décidé par exemple de s'investir dans l'accueil, donc qui ont fait un stage avec SOS Amitié, je crois. Donc on a deux copines qui l'ont déjà fait, puis là il y en a une autre qui fait beaucoup de permanence, qui assure beaucoup de permanence, qui va le faire aussi. Donc il y a quand même de temps en temps un petit renouveau. Mais par contre, moi ce que je trouve intéressant, c'est que c'est vrai que on est une association dans laquelle il y a vraiment toutes sortes de catégories socio-professionnelles. Donc il y a vraiment des ouvrières, des employés qui parfois sont dans la précarité parce qu'elles connaissent des périodes de chômage, etc. Et puis des femmes qui ont fait des études, on va dire, hein, qui ont fait davantage d'études. Mais on arrive quand même à s'entendre, à discuter. Et puis, moi, je trouve, enfin, ce qui me fait du bien très souvent, même si parfois, bon, je me dis, oh là là, ça va pas marcher, gna gna gna, c'est que dans des activités même politiques, bah, tout à coup, il y en a 20 qui viennent. Par exemple, quand on avait fait les cérémonies de parrainage, là, pour les demandeurs et demandeuses d'asile, bah, y a 25 copines des voies d'aile qui sont venues du fin fond de la Drôme. On s'y attendait pas, quoi. Bah, ça fait du bien de se dire que, bah, tout à coup, il y a une activité politique qui tout à coup les fait venir. Bon, en gros, 25, c'est à peu près la moitié de l'association actuellement. On a été jusqu'à 120, justement, après 2002, après Autron, là, parce que ça avait suscité un enthousiasme. Là, on est retombé, où on est dans une période d'une cinquantaine d'adhérentes. Ben, que la moitié vienne, se mobilise sur une question politique, moi, ça me fait du bien, même si, par ailleurs, ben, voilà, elles ne viennent pas régulièrement, elles ne viennent pas discuter de l'organisation de cette action, de telle action, de telle action. Le fait qu'elles soient présentes ce jour-là, ben, voilà, moi, je trouve que on perd pas notre temps, quoi. C'est voilà.
C'est vrai que pour les demandeuses d'asile, on a eu beaucoup de soutien parce qu'on fonctionnait avec des lettres de soutien. Donc on faisait une lettre de l'association, mais on réclamait aussi des lettres individuelles et on en avait souvent pas mal quand même. Enfin,
une vingtaine à chaque fois.
Donc
de lesbiennes.
Ouais, ça marchait bien.
Beaucoup moins de gays par contre. Trois, c'est simple. Les manifestations qu'on a organisées à Grenoble avec l'appui de toutes les associations, on va dire, de gauche pour faire court les syndicats, etc., d'autres associations, ça c'était vraiment, je pense, un moment important. Et puis chaque fois qu'il y en a un ou une qui nous téléphonait de retour au CNDA ou quelques jours plus tard, quand il avait ou qu'elle avait la réponse en nous disant « Ouais, j'ai mes papiers et tout », bon bah ça, c'est, à chaque fois, c'était un bonheur.
Il y a d'autres copains qui sont là, qui étaient à la manif, qui ont défilé avec le phare ou avec le MLF.
Nous sommes une sorte de contradiction interne dans la société. Sexuel, c'est révolutionnaire.
Enquête de notre histoire.
Des histoires de pédales.
De gouinasses.
De folles et de tapioles.
De travelots, de trans.
De sales féministes.
De mal baisés.
D'enculés.
Entretien avec Isabelle, Nicole et Sylvie, militantes aux voix d'elle, association de lesbiennes de Grenoble.
Quand même, on était assez visible dans la manif contre Le Pen. C'était quelle année, je me rappelle, 2002. On était tout un petit groupe des voix d'elle là, qui hurlions dans un mégaphone, tout ça. Le Pen, t'es foutu, les goudous sont dans la rue. Il y avait des petits gamins à côté qui criaient Le Pen, t'es foutu, les goudous sont dans la rue. Et puis moi, je criais ça dans un mégaphone et tout. Puis il pleuvait, hein, et j'avais un blouson avec une capuche et tout. Et je gueulais ça dans le mégaphone et il y a une dame qui est venue qui m'a tapé sur l'épaule. Elle me dit monsieur, c'est quoi une goudou? Enfin, c'est pour dire qu'à cette manif on a été visible. Je sais pas si on avait même pas le drapeau des voix d'elle.
Oui, oui. C'est la première fois qu'on sortait.
Parce qu'on a un drapeau et dans les manifs et toutes les manifs pour l'égalité des droits, on va dire, notre drapeau était sorti.
Ben, pour moi, un des temps forts, ça a été la rencontre des lesbiennes de la CLF, de la Coordination Lesbienne en France, qu'on a organisée ici à Autran, enfin dans le Vercors, en 2002. Ça a été vraiment un temps très fort de l'association, parce que d'abord, ben, on a été un groupe d'une vingtaine à l'organiser. Alors là, ça relève du rêve, parce que maintenant, si on est quatre à se courir après, pour essayer de faire des choses, c'est un peu difficile. Donc là, ça avait drainé quand même des énergies. On avait posé un tas de questions, débattu de questions de fond, justement, pour savoir quel allait être l'hébergement. Il fallait absolument que toutes soient hébergées à la même ancienne, qu'il n'y en ait pas qui campent parce qu'elles avaient moins les moyens et que d'autres soient logées en dur parce qu'elles avaient plus les moyens. Il fallait que tout le monde ait accès, bien sûr, à la nourriture, etc., etc. Donc, on avait posé des questions de fond. La question aussi des trajets pour rejoindre depuis toute la France ce lieu qui n'était pas vraiment central, quoi, quand même. Bon, on avait posé tout un tas de questions et puis à cette époque, dans la CLF, étaient débattues des questions autour du racisme et puis ben, je crois qu'il y avait déjà la prostitution.
La prostitution, oui.
Des trucs récurrents quoi, qui font qu'on tombe toujours en désaccord.
Il n'y avait pas le voile.
Il n'y avait pas encore le voile. Et voilà, donc il y avait eu des... bon, il y a eu des clashs. Hein. Et puis sur les questions de précarité, justement, par rapport à notre politique de prix, de prix libre. Et du coup, on avait un tiers de femmes qui avaient des revenus faibles et qui avaient pu venir à cette rencontre où il y avait eu plus de 200 femmes. Hein. C'était 200 lesbiennes. Ça avait été, pour moi, ça a été un moment très fort. Quoi.
Et voilà. On avait réussi à ce que toute la nourriture soit végétalienne. C'était pas évident à faire, ça. Surtout qu'en fait, on avait loué un lieu dans le Vercors où la personne qui faisait la cuisine n'avait jamais fait végétalien. Elle s'est défoncée comme je sais pas quoi, elle a cherché des recettes. L'idée, c'était que tout le monde puisse manger de tout, quoi.
Et bien sinon, en fait, ce que je trouve le plus sympa maintenant, c'est qu'on se retrouve avec vous, avec les dégenrés, avec la BAF, c'est-à-dire des filles qui vivent différemment, qui ont d'autres idées par rapport au trans, par exemple, parce que c'est un phénomène qui a toujours existé, mais qui se pose au moins clairement maintenant. Et puis voilà, parce qu'en fait, au Voidel, on n'est pas beaucoup à s'intéresser aux politiques. Que voilà, ça nous fait un souffle et ça nous fait. Non, c'est vraiment quelque chose de nouveau et sympa parce que c'était plus compartimenté avant. Et il y avait, entre celles qui avaient fait le choix d'être en rupture de l'institution et nous qui étions, soit par nos boulots, soit par le fait qu'on est un local, qu'on soit avec les gays, tout ça, qu'on est plus dans l'institution, ce qui ne nous satisfait pas forcément. Hein. Ben, enfin, moi, personnellement, c'est vrai que j'envie le fait qu'il puisse faire des ruptures.
C'est vrai que ça a été un moment important. Je me rappelle exactement quand les anarchas
féministes
ou lesbiennes ou trans sont venus pour la première fois au Voidel. C'était en 2003. Alors, je ne sais pas s'il y avait un effet au tran qui avait circulé, mais c'était à propos d'une réunion qu'on avait faite ici, où on a invité l'association Kabiria, qui s'occupe de prostituées, parce qu'il y avait les discussions, le débat autour de la loi de Sarkozy, qui était ministre de l'Intérieur à ce moment-là. Donc il y avait tout un arsenal de lois répressives sur le racolage passif, sur les rassemblements. Nous, on avait besoin d'y voir clair, parce qu'on n'a pas forcément des idées arrêtées sur tout. Hein. Moi encore, il y a des choses pour lesquelles je ne suis pas vraiment fixée hein, sur ces sujets. Donc on avait fait venir Kabiria, donc il y avait trois prostituées qui étaient venues, dont une trans, et deux personnes qui encadrent l'association. Et puis on avait eu ce débat, il y avait eu les copines donc, qui étaient à l'époque dans un squat qui s'appelait La Charade, qui étaient venues, et avec leur petit...
Fanzine.
Ouais, voilà, l'info kiosque. Et nous, ça avait été la découverte d'un monde. Et après, donc, on était allés les voir à La Charade, voir ce qu'elles faisaient, puisque c'était mixte d'ailleurs. Et puis, c'est vrai que politiquement, ça nous avait fait beaucoup de bien de voir des gens avec qui on n'était pas obligé de toujours tout expliquer, qui au contraire, d'ailleurs, pouvaient aussi nous faire réfléchir. Voilà, ça avait été. Enfin, pour moi, ça a été un moment aussi de. Enfin, même toujours. Depuis 2003, donc chaque fois qu'on a eu des rencontres avec ces groupes, enfin moi ça me fait du bien.
Et à quand la fin de toute forme de distinction sociale, à quand la fin de toute forme de ségrégation raciale, à quand la fin de toute forme de discrimination femme, c'est pour Nana Beur, acteur, chaîne de garde, cité Mofia, MLM, pour une nouvelle ère.
Oye oye, peuple femme, bravo aux hommes, tapez du poing sur la table. Il est temps de changer pour une nouvelle ère. Oye oye, peuple femme, à vos armes, levez le poing en l'air et séchez vos larmes. Oye oye, peuple femme, à vos armes, tapez du poing sur la table. Il est temps de changer pour une nouvelle ère. Oye oye, peuple femme, à vos armes, levez le poing en l'air et séchez vos larmes.
Et après le mouvement de libération des femmes, PNLM élève 2000 encore s'unir pour un nouveau combat, un nouveau discours, un nouveau débat. Ah, comme des forcenés, à vol on force les portes, on est prêt à négocier la parité à tous les niveaux, dans toutes les classes sociales, la mixité, l'égalité des salaires. Les lois changent mais les mentalités stagnent. Convaincus, je revendique des principes ou des radères ou des histoires de cul. Fini les années 75, les manifestations portées par des intellos. Un coup de chapeau, merci encore pour ces guerrières de France. Mais c'est pas fini pour ces filles 20 ans, jeunes et jolies, issues d'immigration et des quartiers populaires. Pour elles, je continue, je m'avance avec celles qui veulent. Je me bats pour une nouvelle ère. Mafia, tout unir pour le même combat. Oyez, oyez, peuple femme, à vos armes, tapez du poing sur la table. Il est temps de changer pour une nouvelle ère. Oyez, oyez, peuple femme, à vos armes, levez le poing en l'air et séchez vos larmes. Oyez, oyez, peuple femme, à vos armes, tapez du poing sur la table. Il est temps de changer pour une nouvelle ère. Oyez, oyez, peuple femme, à vos armes, levez le poing en l'air et séchez vos larmes.
MLF, nouvelle ère.
Et chercher l'harmonie et l'équilibre entre l'homme et la femme. Tu vois, toi, tu trouves ça normal que chaque année 60 à 200 femmes meurent de violence conjugale. Et dis-moi toi, comment tu réagis si je te dis que les Afghanes sont privés de tous les droits et risquent le fouet, si elles n'obéissent pas à leur mari. Et en effet, les chiffres prouvent, les faits sont vrais. Et si on dit rien, on fait rien.
On assiste à une merde universelle.
Je veux pas être complice d'homicide, d'hécatombe de supplice envers les femmes, au nom des miennes, au nom de celles qui souffrent en silence. Me fia, pas en avant, vers une nouvelle ère.
MLF, une nouvelle ère, me fia, prends la relève. De nos jours, les droits de la femme sont bafoués. On trouve encore des femmes excisées, exilées pour des mariages forcés. Dans certaines familles d'Afrique, on voit aussi des femmes abusées, violées, assassinées. Dans le monde, les droits de la femme au Pakistan sont inexistants. C'est consternant de voir ces femmes se faire répudier pour le simple fait d'avoir mis au monde une petite fille fidèle à la tradition.
Oyez, oh yeah, oyez, oh yeah, peuple femme, à vos armes, tapez du poing sur la table. Il est temps de changer pour une nouvelle ère. Oyez, oh yeah, oyez, oh yeah, peuple femme, à vos armes, levez le poing en l'air et séchez vos larmes. Oyez, oh yeah, oyez, oh yeah, peuple femme.
Alors militer, j'ai beaucoup de problèmes avec les mots. J'aime pas le mot militer, mais je sais pas bien par quoi le remplacer. J'ai bougé.
Personne
ne comprend. Bon, ben, quand je dirais bouger, ça voudrait dire quand vous vous dites militer. Alors depuis combien de temps je bouge? Parce que mon papa il était communiste, alors ça m'a donné envie de bouger quand j'ai compris ce que ça voulait dire, le communisme. C'est-à-dire, ça voulait dire de chacun selon ses moyens et à chacun selon ses besoins.
Bravo.
C'était pas encore chacun et chacune à l'époque. Et donc voilà, après j'ai été révoltée à l'école parce que je trouvais que l'école était stupide. Après j'ai été révoltée au bac parce que j'avais des amis qui n'avaient pas eu le bac par manque de peau. Et après j'ai été révoltée en 68 parce que tout ça a été bien injuste et tout ça, et que les garçons et que les mecs ils baratinaient. Enfin, ce que j'ai vu en 68 au début, c'était beaucoup des mecs qui jouaient au cow-boy et voilà. Et après, en 70, il y a eu le MLF, et c'est là j'ai vécu avec, en communauté avec des hommes et des femmes. Et c'est là que, voilà, il y avait le MLF, et c'est là que je me suis sentie bien, envie de bouger avec d'autres pour des choses qui me concernaient. Ben oui, parce que quand j'étais hétéro, ben j'étais pas très hétéro, hein, j'avais pas une tonne de relations. Mais j'en ai eu assez pour avoir peur d'avoir des gamins. Donc l'avortement et la contraception, ça m'a mobilisée. Et puis c'était le prétexte, parce que c'était important qu'on se débarrasse de ces problèmes et qu'on les règle. Mais c'était d'être avec des filles pour changer le monde et pour prendre notre histoire en main.
Je pense que j'ai toujours été révoltée par l'injustice, depuis toute petite. Après, politiquement, j'ai mis très très longtemps à trouver des marques. Je savais que j'étais à gauche, mais quelle gauche? Quand j'étais jeune, j'ai essayé un peu tous les partis. Je suis allée à des réunions à peu près dans tous les partis. Je me suis trouvée bien nulle part. Et j'ai rencontré très très tard et beaucoup trop tard, d'ailleurs quand je suis arrivée au Boisdel, des féministes. Et là, ça a été la grande lumière, la grande... Ça a éclairé plein de choses sur ma vie personnelle, sur la vie de ma mère, entre autres aussi, et sur ce qu'il fallait faire pour changer ce monde, quoi. Voilà, moi c'est au Boisdel que je me suis inscrite politiquement le mieux, et voilà.
J'ai une maman communiste, moi, et un grand-père. Je pense que j'étais dans une famille de révoltés, donc j'ai été révoltée aussi très jeune. À 14 ans, j'ai commencé par militer au Secours Populaire Français. On prend ce qu'on trouve. C'était en face de mon collège, alors c'était pratique. Après, j'ai été dans des mouvements d'extrême gauche, des mouvements lycéens, et puis plus tard, mouvements trotskistes. Et puis après, ben, j'ai pris un peu de distance avec ça, parce que les fonctionnements ne me convenaient pas forcément. Et puis, j'ai un peu médité sur le plan syndical, bon, dans mon boulot. Et après, effectivement, j'ai rencontré les voix d'elle, donc j'ai enfin milité là où j'aurais dû aller avant, si j'avais rencontré les bonnes personnes, c'est-à-dire dans le mouvement féministe. Voilà, donc ça date de la fin des années 90.
Qu'est-ce que ça apporte d'être au voix d'elle ? Et ben, comme on n'arrive pas à être dans des partis politiques, c'est un espoir qu'on peut changer, ou un espoir de changement, parce que de se regrouper contre le patriarcat et le capitalisme, c'est bien. Après, si on pouvait le faire de manière plus pratique, c'est-à-dire que notre mouvement est plus un des conséquences ou des implications dans le système politique, financier, économique, ce serait bien. Les mouvements de femmes ou de lesbiennes, jusqu'à présent, ce que j'en ai connu, c'est que ça a des phases euphoriques ou des phases où il y a beaucoup de monde et ça marche, et il y a des moments de creux. Et c'est vrai que c'est bien quand il y a un moment de creux de ne pas lâcher toutes les choses pratiques qu'on a mis en route, comme un local, ou même si ça ne marche pas très bien, bah c'est bien de le garder. Ouais. Et puis dans les choses à améliorer, il y a ce truc des relations amoureuses. Dans les groupes de lesbiennes, les relations amoureuses qui finissent mal, ça fait qu'il y en a une des deux qui vient plus, tout bêtement, hein. Voilà, qu'il y a des femmes qui peuvent pas se voir et qui peuvent pas travailler ensemble parce qu'il y a eu des ruptures trop dures. Est-ce que c'est quelque chose à travailler collectivement ou pas ? Moi, j'ai eu des problèmes de garde d'enfants il y a très longtemps, et c'est vrai que j'aurais bien aimé que autour de moi, on nous aide. Voilà, dans les problèmes de garde d'enfants hétéro, bah oui, on dit, lui, il faut que la femme ait la garde d'enfants. Mais entre des femmes, on dit, bah, c'est votre affaire, on ne peut pas s'en mêler, on ne sait pas. Et dans les problèmes de relations entre femmes, que ce soit amoureuse ou pas, d'ailleurs, quand c'est des fois, c'est des disputes, ça reste un truc privé qui affaiblit le mouvement.
Pour moi, c'est vrai que de me retrouver avec des lesbiennes, ça m'a permis d'accepter ce que j'étais, alors que j'étais largement au placard avant, hein, tout simplement. Donc je suis restée une trentaine d'années au placard, on va dire. Et puis, finalement, de rencontrer des lesbiennes, de parler avec elles, de partager nos expériences, parce qu'au début, c'est un peu ça qu'on fait, hein, quand on rentre dans un groupe, c'est qu'on a besoin de parler avec des gens qui vivent des choses un petit peu proches. Eh bien voilà, ça m'a évité sans doute de passer des années chez un psy. C'est toujours ça de gagner. Et puis ouais, de rencontrer un monde où finalement c'est là que j'ai milité le plus longtemps. Les autres mouvements, j'y suis pas restée très très longtemps. Au bout de 4-5 ans, je me suis barrée, quoi. Voilà, là ça fait plus de 10 ans, donc ça commence à être une histoire sérieuse, hein. Voilà. Et puis j'ai beaucoup réfléchi à des choses auxquelles j'avais jamais réfléchi avant. Enfin, ça a été une ouverture d'esprit aussi pour moi. Puis au début, où j'étais aux voix d'elle aussi, je disais que ça m'avait permis de rencontrer des femmes qui venaient d'un autre milieu social que le mien, parce que je fréquentais finalement beaucoup de gens qui avaient fait des études, qui étaient dans mon milieu de travail. Et puis je connais, même si je venais d'un milieu familial plutôt ouvrier, je fréquentais pas tellement des gens de mon âge qui exerçaient d'autres métiers que le mien, quoi. Donc ça m'a un peu décrassé la tête, ça fait du bien. Voilà, c'est un lieu où je peux être moi-même, quoi, tout le temps, donc c'est bien.
Oui, moi je dirais à peu près la même chose, c'est un lieu où j'ai ma place, quoi. Ils sont pas si nombreux dans cette société, donc c'est super. Et où j'ai l'impression de faire quelque chose. Des fois je vois pas quoi, mais en tout cas je fais. Je fais des choses. Moi, les voix d'elle, j'ai fait des pas de géant avec les voix d'elle, quoi. Voilà.
c'est la fin de cette émission. On va juste faire un petit point agenda pour les événements des semaines prochaines. Du coup, le vendredi 13 décembre à Grenoble, à la BAF, il y a un concert et c'est The Night of Gender Terror parce que c'est le vendredi 13. Et du coup, il y a un concert avec les Duréguet, Grâce et Volupté Van Van et Viscéralement Déviant.
Sinon, pour la deuxième année consécutive, le Lavoir Public et Écran Mixte organise Only Porn, un festival consacré aux cultures pornographiques, pendant artistique, voilà, au développement théorique post-porn, etc. Donc c'est du 12 décembre au 15 décembre à Lyon, dans ces deux lieux. Vous pouvez retrouver l'info sur le magazine Hétéroclite en papier ou sur Internet. Sinon, le collectif lesbien va organiser une soirée, mais je n'ai pas arrivé à trouver la date, soit mercredi 11, soit mercredi 18, au DIY Live Station, dans le 7e arrondissement, une soirée quiz musicale. Voilà, et sinon, mais on prendra le temps d'en parler plus longuement une prochaine fois, il va y avoir en janvier à Toulouse, un festival de tatouage DIY avec les deux premiers jours en non-mixité, je crois que c'est Trans Pédéguine Meuf. Voilà, et, mais on en parlera plus. Et puis on voulait finir en disant que la semaine prochaine, comme d'habitude, c'est Lilith, Martine et les autres.